la cérémonie s'est déroulée dans la plus grande discrétion à 17h15. Les étudiants juifs avaient déjà quitté l'île, les pétainistes venaient de sortir du cimetière. Comme tous les ans depuis 1986, hier 11 novembre, le président Mitterrand a fait déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain, comme sur 7 autres tombes des maréchaux de la Grande Guerre.
Oui, fallait mieux être discret pour fleurir la tombe du maréchal Pétain en 1992, extrait du JT de FR3. Bonjour Patrice Duhamel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Patrice, vous êtes journaliste, éditorialiste, ancien directeur général de cette belle maison qui est Radio France, ainsi que de France Télévisions. Vous suivez la vie politique française depuis de nombreuses années. Vous en avez tiré plusieurs livres, dont Élysée, Histoire, Secret et Mystère, paru chez Plon. Et vous revenez aujourd'hui avec une histoire passionnante et méconnue, celle de la photo prise lors de la rencontre entre François Mitterrand et Philippe Pétain en 1942, en pleine période de collaboration entre Vichy et l'Allemagne nazie. Le livre s'intitule « La photo Pétain-Mitterrand, l'histoire secrète d'un document qui aurait pu bouleverser la Ve République ». C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi vous avez voulu retracer non seulement l'histoire de cette rencontre, mais surtout l'histoire de ce cliché? Pour vous, ça dit beaucoup de choses de notre histoire?
Ça dit énormément de choses, parce que d'abord de la période par rapport à celle d'aujourd'hui, bon, enfin des photos de cette nature aujourd'hui, je pense qu'il y en aurait assez peu quand même. Ça dit quelque chose du secret. Ça dit quelque chose de la manière dont les grands dirigeants de l'époque, De Gaulle, Pompidou, Giscard et Chirac, Premier ministre, imaginaient, envisageaient, géraient le débat politique. Ils détestaient pas la bagarre, mais enfin...
Il y avait quand même des règles.
Voilà, il fallait qu'il y ait un certain nombre de règles qui soient respectées. Et puis, ça dit beaucoup du parcours tout à fait extraordinaire au sens étymologique du terme, hors norme, de François Mitterrand. C'est-à-dire un homme, là, sur la photo, il a 26 ans, Pétain en a 86, 60 ans d'écart. Il est à Vichy depuis janvier. Nous sommes 3 mois après la rafle du Veldiv. Il est, à ce moment-là, il est pétainiste. Il est contractuel d'abord dans l'administration, puis après il va commencer à s'occuper des prisonniers. Et c'est à partir de là qu'il ira progressivement vers d'abord du pétainisme au maréchalisme, c'est-à-dire plus attaché à l'homme qu'à au coprogramme. Célèbre, tristement célèbre, Révolution nationale. Et ensuite, il ira peu à peu vers la résistance. Mais c'est ce parcours extraordinaire et surtout la manière dont il a voulu, un peu contre toute vraisemblance, mais il a quand même à peu près réussi cacher ce parcours.
Ouais, c'est ça qui est fou.
En 69, dans un livre qui est très important pour lui, qui s'appelle « Ma part de vérité », il écrit, revenu en France, parce que peut-être qu'on y reviendra, mais il a été prisonnier, il s'est évadé, très courageusement d'ailleurs, et puis il est arrivé à Vichy. Donc il dit, il écrit « Rentré en France, virgule, je devins résistant, sans problème déchirant ».
Ah oui,
il ne, cite même pas Vichy.
Ah oui, il y a une ellipse
incroyable, quoi. Pensant peut-être que personne n'évoquerait ça un jour ou l'autre.
Enquête sur un cliché resté secret, caché du grand public pendant près de 50 ans. Désormais, on connaît la photo éminemment polémique entre le jeune François Mitterrand et le vieux maréchal Pétain. Heureusement pour lui, la photo tout aussi polémique sur laquelle on voit Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, encore enfant, sauter sur les genoux de Goebbels en 43, vêtu d'un petit costume tyrolien et saluant on ne sait trop qui, n'est jamais sorti des archives. Espérons que Mediapart ne fouille pas trop. Zoom zoom back, spécial 42, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec une émotion que je peine à contenir, que je vous accueille dans ce qui sera pour le coup, après moult faux départs, ma dernière à ce micro, avant mon congé paternité. Alors bien sûr, je sais,
temps.
Pour vous, comment ça il était temps? J'allais dire quelque chose de mignon, je le retire. Je sais pour vous ça sera dur,
oui.
Je vois Cyril en régie qui suffoque, qui blêmit à présent qu'a sonné l'heure. Je donne 5 jours à Manon pour craquer et, ravagé par le manque de moi, se présenter à Sainte-Anne en disant:
est-ce que vous pouvez m'interner?
Voyons voir, rigoler un peu pour voir. Oui, on a de la place, madame, on a de la place. Sans parler évidemment de Quentin, le plus faillot d'entre nous, qui va m'envoyer 17 messages par jour pour savoir comment va le bébé. Bien, bien, Quentin, déjà presque aussi grand que toi. Bref, pour cette dernière émission avant le combo fatal vacances de Pâques, congé Pâques, plus pont du 8 mai, qui fait que j'aurai probablement un pacemaker la prochaine fois qu'on se reverra, il nous fallait un zoom zoom back de gala. Alors on a hésité, 1979, la sortie des Bronzés fonds du ski avec Christian Clavier.
Ah oui.
Ah ouais, ça aurait été sympa. Ouais. 1978, la sortie de Born to be Alive avec le sugar daddy de Quentin. Non, non, on va plutôt faire 1942 avec Patrice Duhamel parce qu'on est vraiment des déglingos.
France Inter. Zoom zoom zen.
Mathieu Noël.
Alors Patrice Duhamel, vous allez nous raconter l'histoire incroyable de cette photo qui aurait pu faire tomber, c'est vrai, la 5e République, la photo Mitterrand-Pétain. Juste le temps de vous présenter ma petite équipe, à commencer par celle dont le surnom dans la Résistance, la Marianoche, aurait pas mal claqué hein, dans
vrai.
Le maquis. Manon, vous reviendrez sur une première fois en 1942.
Oui, en 1942, une super-héroïne faisait son apparition pour la première fois dans son propre comics. Elle s'appelle Wonder Woman. Elle est forte, puissante et surtout très féministe. Je vous raconte sa création et l'histoire de ce personnage engagé en fin d'émission.
Patrice, quelle chance pour vous de tomber sur le meilleur imitateur vivant du général de Gaulle. Alors, il est le seul à savoir qu'il imite de Gaulle quand il le fait, mais quand même, chapeau l'artiste.
Bien si sûr, vous croyez qu'à 70 ans, je vais me lancer dans une carrière de dictateur.
C'est comme s'il était là, devant nous, c'est stupéfiant. Mais c'est normal, faire revivre l'histoire, c'est son métier. Chaque vendredi, il se rend à l'INA qui lui ouvre généreusement ses archives, n'est-ce pas, Quentin ?
Oui, alors 42, ça n'a pas été très, très facile, puisque la France est sous l'occupation, la propagande à la radio, Pétain nomme un nouveau gouvernement, et l'étoile jaune est désormais obligatoire. Retour par le son en 1942.
1942 à travers les archives, mais aussi en musique avec Camille Diao, car vous découvrez tout à l'heure que Patrick Bruel n'a pas écrit.
Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean.
Mais non, Quentin pensait que c'est Patrick qui l'avait écrit. Mais non, c'est une chanson de 1942. Et en fin d'émission, lui, il a toujours été bien avec les Français, avec les Allemands. Normal, il est Suisse. On fêtera le retour de Charles Nouveau. Mais d'abord, Patrice Duhamel avec nous pour son dernier livre, La photo Pétain-Mitterrand, l'histoire secrète du document qui aurait pu bouleverser la 5e République, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Déjà, Patrice, est-ce que vous pouvez nous décrire cette fameuse photo, puisqu'on est en radio ? On est donc en octobre 42.
On est le 15 octobre 42, on est à l'hôtel du Parc à Vichy, qui était le QG du maréchal Pétain, qui travaillait pas toute la journée, parce que 86 ans...
Voilà. Il faisait des siestes.
Voilà, il y avait des siestes, notamment, et il dormait longtemps. Et c'est là qu'il a une espèce de pièce que l'on voit sur la photo, où il reçoit les personnes qui demandent à le voir. Et François Mitterrand est la personne que l'on voit également en arrière-plan sur la photo, oui. Qui s'appelle Marcel Barrois, qui rentrera dans la Résistance assez vite, et qui sera arrêté par la Gestapo en 44, et qui va mourir dans le convoi qui l'emmène à Dachau. Et donc... François Mitterrand avec son camarade Marcel Barrois sont reçus par Pétain pour évoquer... D'abord, Mitterrand le dira parce que...
Pardon ? À la demande de qui ? C'est François Mitterrand qui sollicite ce rendez-vous ?
Oui, c'est le rendez-vous. Et, bah, il se fait des deux côtés parce qu'à la fois Pétain veut séduire les organisations qui s'occupent des prisonniers et de l'autre côté, ils veulent expliquer au maréchal Pétain c'était une opération caritative de récupération de vêtements, etc. Pour les prisonniers. Ça dure 20 minutes. Mmh. Plus tard, Mitterrand, quand on connaîtra la photo, dira « Ah, c'est 20 minutes à l'hôtel du Parc », etc. Sous-entendu comme si on en faisait des tonnes, ouais. Alors que ça ne le justifiait pas. Bon, il y a beaucoup de Mitterrandistes qui relativiseront, qui diront « Oui, mais ça, il était là au titre des anciens, des prisonniers. Lui-même avait été prisonnier, puisqu'il avait été fait prisonnier en 40. Quand il était sergent, il avait été fait prisonnier, il avait été en prison en Allemagne. »
Et ensuite, il s'est évadé, comme vous nous l'avez dit.
Il a fait deux tentatives ratées, et la troisième qui a réussi. Et puis, il revient, il passe la ligne de démarquement, il va dans le sud de la France quelques jours, quelques semaines, chez des amis de ses parents, il remonte voir sa famille à Jarnac, et ensuite il part à Vichy sur recommandation de sa famille.
On sait ce qu'ils se disent à ce moment-là, on sait ce qu'ils se sont dit.
Il parle de cette collecte de vêtements, ouais. pour les prisonniers essentiellement. Mais François Mitterrand insistera bien plusieurs fois, puisqu'il va commencer à parler de tout ça, quand la photo sortira et quand le livre de Péan, qui s'appelait Une jeunesse française, qui a été un événement énorme en 1994, donc il y a un peu plus de 30 ans, va sortir, il dira que, effectivement, je l'ai dit, Pétain faisait une campagne de séduction parce que il voulait récupérer, entre guillemets, les prisonniers. Voilà, il était assez populaire chez les prisonniers et c'est pour ça qu'après, François Mitterrand arrive à Vichy. Alors, bien entendu, d'autres ont choisi d'aller à Londres.
Hein. Oui, c'est ça, il y avait un choix à faire aussi.
Voilà.
Quentin ?
Pourquoi on en a fait une photo ? Qui a pris cette photo ?
Alors, c'est un militaire qui est dans le premier cercle dont c'était le métier, mais il y avait des photos à peu près de tous ceux qui étaient reçus par le maréchal Pétain.
Une photo qui a fait trembler la 5e République, celle de la rencontre Mitterrand-Pétain en 42. On continue d'en parler avec Patrice Duhamel juste après Billie Holiday, God Bless the Child sur Inter.
Them, there's God.
shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Zoom zoom back, direction 1942. Cet après-midi, ça nous change de 1972 quand on était revenu sur la sortie de Vanina avec Dave. Patrice Duhamel est toujours avec nous pour cette enquête inédite sur la photo, celle de la rencontre Pétain-Mitterrand en octobre 1942, donc qui publie un livre à ce sujet, La photo, l'histoire secrète du document qui aurait pu bouleverser la Ve République. Patrice, pour rester dans le contexte de l'époque, octobre 1942, au-delà de François Mitterrand, quelle était l'attitude générale des Français vis-à-vis du maréchal Pétain? Parce qu'aujourd'hui, quelque part, je ne vais pas le défendre, mais c'est facile de dire, c'est honteux, il a rencontré Pétain en 1942, mais on est à un moment de bascule quand même. Peut-être qu'il avait, lui, l'image de Pétain de la Première Guerre mondiale encore. Il se raccrochait encore à cette image-là. Oui, on pouvait alors, peut-être encore avoir en 1942, non? C'était déjà trop tard.
Les historiens font toujours une distinction entre les maréchalistes et les pétainistes.
Voilà. Ouais, ouais.
Alors, maréchaliste, ça veut dire qu'on est attaché à la personne du maréchal Pétain, et notamment au Pétain de la Grande Guerre, etc. Une forme de légende. Et puis, les pétainistes, c'est ceux qui sont attachés à la fois à la personne du maréchal et à son, on dirait aujourd'hui, à son programme. Son programme, ça s'appelle la Révolution nationale, c'est travail, famille, patrie, l'ordre moral, etc., etc., etc. Mais c'est aussi, c'est ce qu'il y a sans doute de pire dans la Révolution nationale, les décrets qui concernent les Juifs, et qui, contrairement d'ailleurs à ce que François Mitterrand dira, alors peut-être comme Le Monde l'a écrit à ce moment-là, il a eu un trou de mémoire, je ne sais pas, mais la fameuse interview avec Jean-Pierre Elkabbach, qui est un moment de télévision incroyable, en 94, après la sortie du livre, après que l'on découvre cette photo, où il a dit que c'était des Juifs étrangers, parce que Elkabbach lui dit, mais pourquoi vous êtes allé à Vichy alors qu'il y avait les lois anti-juives? Il dit, oui, mais ce qui d'ailleurs ne change pas grand-chose, dit-il, c'était les lois sur les Juifs étrangers. Non, c'était les... Au début, il y a eu une loi sur les Juifs étrangers, mais ensuite, c'était sur les Juifs français, la définition de ce qu'est un Juif, un truc assez épouvantable à lire, je ne conseille pas à vos auditeurs de le faire. La liste des métiers interdits aux Juifs de toute nature, les chefs d'entreprise, les artistes, les journalistes, etc., etc., etc. Donc, il y avait vraiment... Voilà le climat. Alors, là-dedans, François Mitterrand, il est arrivé mi-janvier. Il est déjà charismatique, tous les témoignages, je vous le confirmer, très ambitieux, on ne peut pas lui reprocher. Il commence comme contractuel dans l'administration de Vichy, et puis petit à petit, il va s'occuper donc des prisonniers, c'est à ce titre qu'il est reçu. Il n'est pas dans le premier cercle de Pétain, je ne l'écris pas, c'est pas un livre polémique. Moi, le premier chapitre sur le jour du 15 octobre 1942, je reprends ce qu'on appelle généralement le consensus des historiens, c'est-à-dire à peu près ce sur quoi ils sont d'accord. Et notamment à partir du moment où l'Américain Paxton, en 1973, a écrit écrit le premier grand livre sur ce qu'était vraiment la France à la libération.
Et vous disiez tout à l'heure que néanmoins Mitterrand, il a un peu jeté un voile pudique sur cette période-là, oui. Plus que ça, puisqu'il dit qu'il a en gros tout de suite été résistant. Est-ce qu'il sera vraiment résistant après?
Oui. Non mais ça c'est clair. Je le développe dans le livre. Il est sincèrement péténiste,
puis sincèrement,
et sincèrement résistant. Alors ça se fait pas en 24 heures, ça se fait à glissement progressif.
C'est quoi?
Et c'est à partir de février-mars 43, quand il se fait appeler. Alors il a eu beaucoup de pseudos pendant la résistance. Hein. Il était dans la clandestinité, etc. Mmh. Courageux d'ailleurs, c'est également le consensus des historiens. Il se fait appeler Morlan. C'est le plus célèbre. D'ailleurs, dans la couverture du livre de Péan, il y a à la fois la photo avec Pétain et la photo où on le voit avec une moustache, etc. Et là, c'est Morlan, le résistant.
Et du coup, vous l'avez dit, cette photo a été publiée pour la première fois en 1994. On sait qui la gardait pendant tout ce temps.
On sait qui la gardait, on sait comment De Gaulle l'a eu sous les yeux fin novembre 1965, 10 jours après sa mise en ballotage par François Mitterrand, ce qui a été un événement majeur. Et c'est arrivé par des collectionneurs de photos de cette période-là du sud de la France. Ensuite, c'est arrivé chez un sous-préfet qui lui-même l'a retransmis. Ils ont vérifié l'authenticité, etc., au ministre de l'Intérieur de l'époque, qui donc est allé la montrer au général De Gaulle. Et là, c'est un moment historiquement extraordinaire. Si vous voulez qu'on en parle tout de suite.
Eh ben non, on en parlera dans la partie d'après, comme ça, ça crée un teasing qui donne envie aux auditeurs de rester, c'est la magie de la radio. Lui, en 42, sachant que dans l'équipe, on l'appelle quand même Adolfo Ramirez, je vous laisse imaginer ce qu'il aurait fait. D'ailleurs, son complètement aux archives va être un peu particulier aujourd'hui, puisqu'en 42, on écoutait essentiellement Radio Paris, mais enfin, comme aurait dit Quentin à l'époque de la commandante Tour,
s'il y a de la bonne radio à faire, on sera là.
Quentin, on vous écoute.
Quel monstre. Au début de l'année 1942, ça fait déjà un an et demi que la France est occupée depuis l'armistice du 22 juin 1940. Alors forcément, les archives que j'ai trouvées partagent des discours collaborationnistes. Radio Paris, mais aussi Radio Nationale Vichy ou encore les journaux de l'actualité mondiale diffusés dans les cinémas étaient les principales sources d'information des Français à l'époque. Et cela nous permet quand même de nous replonger dans cette période. Le 19 avril 1942, le maréchal Pétain fait une annonce.
Français, un nouveau gouvernement est constitué. L'amiral Darlan assumera la défense de notre territoire et de notre empire. Monsieur Pierre Laval exercera sous mon autorité la direction de la politique intérieure et extérieure du pays. Français, votre sagesse, votre patience, votre patriotisme nous aideront à triompher de nos épreuves et de nos misères.
Ce sont les Allemands qui imposent à Pétain le retour de Pierre Laval comme chef du gouvernement. Le 29 mai 1942, l'occupant impose le port de l'étoile jaune aux Juifs de plus de 6 ans. Sur Radio Paris, on demande à Charles Laville, de l'Institut d'études des questions juives, l'explication de cette décision.
C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace, et ils sont venus surtout pour profiter, et très peu pour travailler réellement. Or, les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. S'ils le savaient, ils se tiendraient sur leur garde. C'est ce qui n'arrive pas.
Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous.
Donc, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître.
L'archive, évidemment, fait froid dans le dos. Deux mois plus tard, le 16 juillet 1942, c'est la rafle du Veldiv. 13 000 juifs sont arrêtés par la police française à Paris et dans la région parisienne et parqués dans le vélodrome d'hiver de Paris avant d'être déportés vers les camps. En mai, l'amiral Charles Platon a un message pour les mères françaises.
Mères de famille française, il y a un an, Monsieur le Maréchal, vous exprimez en termes qui restent gravés dans nos cœurs la reconnaissance de la France, l'espoir qu'elle met en vous. En transmettant la vie, en élevant l'enfant dont demain vous serez fier, vous réalisez la plus haute vocation de la femme.
Dans le même temps, la résistance s'organise. Missionné par le général de Gaulle, Jean Moulin est parachuté clandestinement en France en 1942 avec la mission d'unifier les mouvements de résistance. Il porte un faux nom, Rex, puis va utiliser aussi l'identité de Max. En 1943, il parvient même à créer le CNR, le Conseil National de la Résistance. Mais il est finalement arrêté par la Gestapo un mois plus tard. Il sera torturé sous les ordres de Klaus Barbie et meurt dans un train qui l'emmène vers Berlin. Il est la figure de la résistance en France et à ce titre, il entre au Panthéon Lyon en 64. Mais retour sur cette année 42. Cette année-là, on peut entendre cette chanson d'Annette Lajon.
Pourquoi t'en aller, puisque je te pardonne ?
Début mars, on change d'ambiance, l'agglomération de Paris est touchée.
Dans la nuit du 3 au 4 mars, en une attaque massive, l'aviation britannique a laissé pleuvoir des centaines de bombes sur l'agglomération parisienne. Le lendemain matin, la banlieue ouvrière offre une vision d'horreur et de désolation. Dès l'aube, les pompiers s'acharnent à retirer des décombres des malheureux ensevelis et respirant encore.
Au milieu de toute la propagande, le 8 novembre, grâce à une source non déterminée dans les archives, certains Français ont pu entendre ce message. L'archive, très intéressante, s'appelle simplement « La voix de l'Amérique ».
New York, l'Amérique en guerre vous parle. Écoutez bien, voici une nouvelle d'une extrême importance. Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique du Nord.
Évidemment, le maréchal Pétain réagit.
Français, des officiers généraux au service d'une puissance étrangère ont refusé d'obéir à mes ordres. Je vous réitère l'ordre de résister à l'agression anglo-saxonne. Nous vivons des heures tragiques. Le désordre règne dans les esprits. L'union est plus que jamais indispensable. Je reste votre guide.
À Paris, le journaliste pro-allemand et chroniqueur sur Radio Paris, Jean-Hérold Packy, s'exprime sur, lors d'une réunion publique du Parti populaire français à propos de ce qui est appelé alors la trahison de novembre 42.
Une libération alors, cette trahison nord-africaine, mais une libération de quoi ? Sur cette terre-là, l'Angleterre de M. Churchill a promené l'inintelligente majesté, le lamentable Benet, héritier de 10 siècles d'une histoire où il n'y a que des cocus et du sang, de l'argent et des drames, de la pourriture et du vol, du satanisme et de l'alcool.
1942, une année de mensonges politiques, d'humiliation pour les juifs français, mais aussi une année où la résistance s'organise. C'est sur l'une des années les plus sombres de l'histoire de France, et même bien au-delà, que je referme ce complètement aux archives. Patrice Duhamel, 1942, l'année de l'obligation du port de l'étoile jaune, on l'a entendu, cette archive de Charles Laville qui est terrible à réentendre. Comment l'antisémitisme a infusé dans la société française ?
Alors, il a commencé un peu plus tôt, dans les années 30. Il s'est amplifié, développé dans les années qui ont suivi. On se souvient, au moment du Front Populaire, Léon Blum, qui a gagné les élections, qui va être président du Conseil, va être l'objet d'attaques antisémites absolument incroyables. Je me souviens plus quel est ce député d'extrême droite qui dit qu'il aura fallu attendre je ne sais pas combien d'années pour qu'un juif gouverne la France. Enfin, c'était absolument effrayant. Et puis, ça fait partie de la doctrine du nazisme, bien entendu, et puis du maréchal Pétain à travers la Révolution nationale. Parce que non seulement les lois anti-juives étaient décrétées par Pétain et par le régime de Vichy, mais en plus, et j'en parle, Klarsfeld a sorti une archive il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs quelques années, où on dit que le maréchal Pétain, il en rajoutait même par rapport il faisait du zèle par rapport à ce que les autorités allemandes lui demandaient, ce qui est absolument terrifiant.
Et ce qui, en plus, ça me fait penser que Zemmour a été condamné. Il avait, Éric Zemmour qui avait prétendu que Pétain avait sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire incroyable de la photo de la rencontre Mitterrand-Pétain en 42, c'est ce que nous raconte Patrice Duhamel dans son dernier livre, La photo, l'histoire secrète du document qui aurait pu bouleverser la Ve République aux éditions de l'Observatoire. Patrice, vous révélez dans ce livre que cette photo, De Gaulle, Pompidou, Giscard et Chirac, ils l'ont tous eu entre les mains. Pourquoi aucun ne l'a utilisé pour déstabiliser, voire éliminer politiquement François Mitterrand ?
Ah oui, le risque, c'était vraiment de l'éliminer de la vie politique, clairement. Écoutez, ça s'appelle, il y a plusieurs raisons, mais globalement, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence de Gaulle. Donc je parlais de ce jour, je crois que c'est le 27 novembre 1965. Donc le ministre de l'Intérieur de l'époque, Roger Frey, vient montrer la photo au général et lui dit, écoutez, vos adversaires vous tapent dessus du matin au soir, dont François Mitterrand.
Allons-y.
Vous refusez de faire campagne. C'est vrai que De Gaulle disait, voilà, première élection au suffrage universel, mais il ne voulait pas descendre dans l'arène. Il n'utilisait pas les créneaux de la campagne officielle à la télévision, etc. etc. Il disait, mais vous voulez que... Parce que il y avait un adversaire centriste, petite parenthèse d'humour, parce que c'est quand même tragique, tout ce conflit. Dans cette élection, il y avait un centriste qui s'appelait Jean-Luc Canuet, qui a d'ailleurs fait un gros score et que personne ne connaissait, parce qu'à l'ORTF, les opposants étaient quand même peu présents sur les antennes. Et il était arrivé en disant « Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Canuet ». Et donc De Gaulle, quand son ministre de l'Information... lui avait dit il faut quand même que vous interveniez dans la campagne. De Gaulle lui avait dit vous voulez que j'arrive, je sais pas, pardon, limité. Vous voulez que j'arrive devant les Français et que je leur dise bonsoir, je m'appelle Charles de Gaulle.
Oh, ça aurait été un moment historique.
Manon.
Est-ce que des organes de presse étaient au courant?
Non, parce que les organes de presse, eux, l'auraient certainement sorti.
Non, mais ce 27 novembre. Ouais. Donc on est à une dizaine de jours de la mise en ballotage du général. Donc il a la photo sous les yeux.
Il a le joker, il a la carte qui peut tout
détruire. Il dit trois choses. Un, Mitterrand est une arsouille. Alors ça, c'est l'argot de l'époque, ça veut dire un voyou.
Un voyou, d'accord.
Voilà. C'est ce que dit Larousse. Deux, je ne ferai pas la politique des boules puantes. Là, référence à sa stratégie depuis qu'il est revenu au pouvoir en 45, etc., qui est de rassembler les Français, d'essayer de jeter un voile pudique sur toutes les divisions entre la France résistante, la France de la collaboration, et puis ce marais au milieu, ce qu'on a appelé la France grise, qui était ni noire ni blanche. Donc il fallait réunifier tout ça, sinon il considérait que ça pouvait pas, qu'on pouvait pas redresser le pays. Donc je ne ferai pas la politique des boules puantes. Et troisièmement, cette phrase que je trouve incroyablement gaullienne, imaginez qu'un jour François Mitterrand soit président de la République, donc on est en 65, 16 ans avant 81, je ne veux pas affaiblir la fonction présidentielle.
Wow, oui.
Phrase, ça s'appelle la classe.
Ça s'appelle la classe. Est-ce qu'on la retrouverait aujourd'hui, cette classe? Ou est-ce que la photo, elle sortirait tout de suite?
C'est une des leçons du livre. Je pose la question à la fin du livre, dans l'épilogue. Alors, c'est deux périodes. Les responsables de cette période, même Chirac, puisque le Chirac dont vous parliez, c'est celui de 86-88, donc avec Mitterrand, premier ministre de Mitterrand, puisque quand il était président, le problème se posait plus, la photo était sortie, etc. Mais lui, il était jeune pendant la guerre, mais tous les autres ils avaient 18, 20 ans ou plus encore. Et De Gaulle, bien entendu, lui, il en avait 50. Mais ils ont vécu, ils ont connu le tragique de la France. Alors, je dis pas ça pour excuser ceux d'aujourd'hui dont on peut considérer qu'ils sont pas à ce niveau-là. Mais quand même, ça, voilà, c'est une autre forme de d'homme d'État. Mais cette phrase de Gaulle sur Mitterrand, je la trouve... Parce qu'il y a une curiosité chez De Gaulle, c'est qu'il méprise profondément Mitterrand, mais il y a quelque chose dans sa tête qui lui fait dire celui-là, quand même, il est singulier.
Une première fois, une chanson qui devrait permettre beaucoup plus tard à Patrick Bruel de relancer sa carrière. Voilà ce qui vous attend dans la suite de Zoom Zoom Back spécial 1942. On se retrouve juste après Biche, le code sur France Inter.
Mais il me reste bien quelques souvenirs d'enfance.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
1942, pas l'année la plus funky de l'histoire, mais cette année-là aussi, il y a eu des premières fois marquantes, et pas seulement du côté de la maison de plaisir au Gaillard Comblé, rue Blanche, où notre rédacteur en chef découvrait la vie, mais c'est une autre histoire. Non, Manon, c'est d'une première fois beaucoup plus intéressante que vous nous parlez cet après-midi.
C'est pendant le mois de juillet 1942, en pleine guerre mondiale, que le premier comic book centré sur une super-héroïne va faire son apparition. Wonder Woman, la célèbre Amazone aux shorts bleus, au bustier rouge, avec sa tiare dans les cheveux et son lasso magique. Elle est en couverture du premier comics à son nom, assise sur un cheval prête à attaquer une armée. Wonder Woman rencontre un pilote de la US Army, Steve Trevor, qui s'échoue sur son île d'Amazon. Ils vont ensuite partir ensemble pour aller combattre l'ennemi de leur pays, les nazis, et protéger les États-Unis. Une BD patriote, comme l'étaient aussi Superman et Captain America à l'époque, chacun aux couleurs du drapeau américain. Mais évidemment, la particularité de Wonder Woman, c'est qu'elle est la première super-héroïne au monde. Et étonnamment, la personne qui l'a créée est un homme. Il s'appelle William Moulton Marston, un ancien psychologue devenu conseiller éditorial de la All American Publication, une maison d'édition spécialisée dans les comics. L'idée de Wonder Woman lui vient en 1941. Il en a marre de voir que des hommes super-héros. Il est aussi poussé par les deux femmes de sa vie féministes avec lesquelles il forme un ménage à trois. Pas commun, quand même, pour l'époque. Original. Et c'est avec un dessinateur habitué du format comics, A.G. Peters, qu'il imagine le personnage. Évidemment, il s'agit de deux hommes blancs, hétérosexuels, de plus de 40 ans, et nous sommes dans les années 40. Donc, sans surprise, leur femme parfaite est évidemment blanche, bien foutue, avec une poitrine généreuse, un short très court, de très longues jambes, une femme très sexualisée. Mais, sous cette apparence stéréotypée, se cache aussi un personnage féminin très fort, indépendant, féministe. C'est en tout cas comme ça qu'il est présenté dans le communiqué de presse.
Wonder Woman a été conçue dans le but de promouvoir au sein de la jeunesse un modèle de féminité forte, libre et courageuse, pour lutter contre l'idée que les jeunes femmes sont inférieures aux hommes, et pour inspirer aux jeunes filles la confiance en elles et la réussite dans les sports, les activités et les métiers monopolisés par les hommes.
Pour l'époque, c'est quand même un message très fort, et William Moulton Marston ne va pas lâcher son objectif. Il va même se battre contre le boss de sa propre maison d'édition sur le rôle de Wonder Woman au sein de la Justice Society of America, une sorte d'Avengers version DC Comics, où tous les super-héros de la franchise s'unissent pour combattre ensemble. Sauf que Wonder Woman a une place différente. Elle ne combat pas avec eux, elle est leur secrétaire. Et oui, un rôle bien sexiste. Alors, qu'elle est la plus puissante que la moitié des autres super-héros, quand même.
Elle est super pouvoir.
Une décision, évidemment, qui scandalise William Moulton Marston. En réponse, il publie des histoires très engagées dans les numéros suivants de Wonder Woman. Elle aide, par exemple, les femmes à faire grève. Elle combat les opposants à l'égalité homme-femme. Et en 1943, il sort carrément un numéro où elle devient présidente des États-Unis. Bah oui, pourquoi pas. Et puis vient l'après-guerre. Marston meurt, les comics n'ont plus la cote. Certains parents trouvent qu'ils sont trop violents pour leurs enfants. Une autorité va même se créer pour les surveiller de plus près. Wonder Woman fera son grand retour à la fin des années 60. Elle devient une icône des mouvements féministes de l'époque, propulsée par la série télé avec l'ancienne Miss USA, Linda Carter. La série est réalisée par un homme, évidemment, et ça se ressent. Le fameux male gaze, le corps de Linda Carter, est plus que jamais sexualisé, même si, comme pour la BD, il faut souligner, les sujets traités sont engagés contre la société patriarcale. Mais en 2017, le personnage de Wonder Woman revient cette fois-ci au cinéma, et pour la première fois, c'est une femme qui réalise Patty Jenkins. Son but est justement de ne plus sexualiser le personnage de Wonder Woman, notamment quand elle filme son corps. Pas de gros plans sur ses fesses, pas de gros plans sur ses seins. Son costume a aussi été repensé en armure d'acier sans décolleté. Après, l'actrice qui l'interprète, c'est tout de même Gal Gadot, soit l'une des plus belles femmes au monde. Il n'empêche que le film a remis au goût du jour le personnage de Wonder Woman dans un monde post-MeToo où il est hors de question qu'elle redevienne la secrétaire sexy des années 40.
Merci beaucoup Manon pour cet éclairage. 1942, c'était donc Wonder Woman, mais c'est aussi la rencontre Mitterrand-Pétain, immortalisée par une photo restée cachée du grand public pendant 52 ans. C'est l'enquête que publie Patrice Duhamel dans La Photo, l'histoire secrète du document qui aurait pu bouleverser la Ve République aux éditions de l'Observatoire. Patrice, si De Gaulle et Pompidou ont refusé d'utiliser cette photo, on l'a dit, vous racontez que Valéry Giscard d'Estaing, lui, il a sérieusement songé à l'utiliser en 81.
Déjà, il l'avait sous les yeux avant son élection en 1974. Mm-hmm. En 1974, pour Pete Weber, la campagne est très rapide, donc il n'y pense pas vraiment. Et il applique les préceptes que lui avait donné Kennedy quand il l'avait rencontré une dizaine d'années plus tôt. Kennedy lui avait dit, faites une campagne, si vous êtes candidat un jour, vous faites une campagne jeune, joyeuse, chaleureuse, sans attaque sous la ceinture. Donc, voilà.
Il s'y est tenu.
Donc il s'y est tenu. Après, il y a eu la période de 78 où tout le monde pense que les sondages, notamment, que la gauche va gagner, que ça sera la première cohabitation. Et là, je suis tombé par hasard, je l'évoque dans le livre, des archives secrètes qui montrent qu'il y a eu des rencontres tout aussi secrètes, comme sous la Résistance, entre le très proche de Giscard, Michel Poniatowski, ancien ministre de l'Intérieur, et Mitterrand. Et il y a un pacte secret qui se noue entre Mitterrand et Giscard, de non-agression, parce que Mitterrand pense qu'il va gagner les élections, fait dire à Giscard « Je ne vous attaquerai pas, mais je compte sur vous pour contenir le Parti communiste. »
Ah, contenir le Parti communiste, d'accord.
Et donc, il y a un pacte de non-agression, donc pas question qu'il y ait des attaques personnelles. En revanche, en 80, il est très attaqué, Giscard, notamment par l'affaire des diamants. Là, il se pose vraiment la question, et c'est ce qu'on appelle la jurisprudence de Gaulle, c'est-à-dire on ne va pas ressortir ce qui a totalement bouleversé la France, toutes les familles françaises à peu près, etc. Donc, finalement, il y renonce. Et puis ensuite, après Mitterrand, ça c'est un sujet, je n'ai pas eu la réponse, donc je ne l'évoque pas. Vraisemblablement, lui commence à comprendre, il sait, parce que ce qui est très romanesque, Mitterrand, ce qui est très romanesque et presque shakespearien, c'est que dans cette période dont on vient de parler, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand ne sait pas qu'ils ont la photo.
Ah oui, c'est
il
ça
ne le
fou.
Sait pas. Non,
mais
non,
est-ce
non,
qu'il
non.
sait même que la photo existe?
Ah, il sait qu'il y a une photo qui a été prise. Ah.
Oui, mais enfin, j'imagine qu'il a été pris en photo souvent dans sa vie. Peut-être qu'il a oublié que ce jour-là, avec Pétain, il y avait un photographe, il n'y a pas une photo.
Oui, peut-être, puisqu'il avait 26 ans, là, on est des dizaines d'années après.
Et justement, il est surpris que Péan puisse la sortir en 94.
Il l'a eu totalement par hasard. Je parlais de ce personnage qui est le troisième sur la photo. Pierre Péan, quelques mois d'ailleurs avant la publication de son livre, a trouvé les coordonnées de la veuve de ce Marcel Barrois qui est mort tragiquement dans le convoi pour Dachau. Et au téléphone, il demande à cette femme « Est-ce que vous auriez des photos avec votre mari, François Mitterrand, parce que je fais un livre sur cette période, etc. » Elle dit « Je vais chercher, je vais regarder. » Et quelques jours après, elle l'appelle, elle lui dit « Oui, oui, j'ai retrouvé une photo, il y a le maréchal Pétain. »
C'est sympa comme photo.
C'est comme ça que ça s'est passé.
Il n'a pas essayé de l'empêcher de la faire sortir, cette photo? Ça faisait 13 ans qu'il était au pouvoir, il aurait
non,
pu utiliser
non,
les moyens de l'État.
Je pense que Péan ne lui en a pas vraiment parlé, alors que Mitterrand avait vraiment participé, contribué au livre. C'est-à-dire qu'il avait, il a vu très 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 souvent Pierre Péan pour apporter des réponses, éclairer, clarifier sur tel ou tel point, etc. Mais il n'était pas content du tout du résultat, parce que ça a été une avalanche de critiques en France.
Oui, parce que ça a été quoi les réactions? Ça a été terrible.
Bah oui, y compris les socialistes amis de François Mitterrand, qui ont quand même découvert un certain nombre de choses qu'ils ne connaissaient pas.
Il nous a rejoint en studio, Charles Nouveau, et de retour parmi nous après deux longs mois d'absence. Et il a rarement aussi bien porté son patronyme. Mais est-ce que vous êtes alerte? Est-ce que vous êtes suffisamment informé, Charles?
Écoutez, j'ai pas suivi l'actualité politique internationale depuis début février. J'ai manqué les deux premiers mois du nouveau mandat de Donald Trump. J'imagine qu'en aussi peu de temps, j'ai pas pu louper grand-chose. Mais dans le doute, ne me spoilez pas, je vous en supplie.
Bien, le temps que vous mettiez à jour, je vous propose qu'on écoute une vraie professionnelle. Même en 1942, elle a réussi à nous trouver une chanson à décortiquer. Autre que Maréchal Nous Voilà, le tube de Quentin. Bonjour, excusez-moi, Quentin, tout à l'heure je l'ai diffusé pour rire et vous avez commencé à chanter par-dessus. C'est quand même assez inquiétant.
J'ai moment de torpeur sur France Inter.
J'ai fredonné.
Oui, mais c'est déjà trop.
Et que les enfants étaient obligés de chanter.
Les pauvres.
Voilà, c'est pour ça. Je reste un enfant.
Oui, un éternel enfant. Bonjour Camille Diao.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Camille, chaque semaine dans Rétropop, vous nous racontez l'histoire à travers la musique. Alors qu'est-ce qu'on écoute dans la France occupée de 1942?
Eh bien, on écoute un morceau plutôt bien classé dans le panthéon de la chanson française.
Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean.
Mon amant de Saint-Jean, c'est Lucienne de Lille, et non pas Édith Piaf, hein, comme parfois on a tendance à le penser. D'ailleurs, il faut savoir que la môme n'a pas du tout apprécié le succès de Lucienne de Lille. Elle a tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc il faut savoir que c'est pas la première version de cette chanson. Elle est sortie d'abord en 1937, sous le titre Les Barbeaux de Saint-Jean. Le barbeau, c'est un poisson. Puis dans une deuxième deuxième version en juin 42, Mon costaud de Saint-Jean, interprété par Jane Chacun.
Moi qui l'aimais tant, j'ai tant aimé mon costaud de Saint-Jean.
Bon, ça ne prend pas. Son compositeur, Émile Carrara, charge alors le parolier Léon Hagel de la réécrire. Et là, il l'a confié à Lucienne Delisle, une chanteuse qui s'est fait connaître au Music Hall à la fin des années 30. Et cette fois-ci, eh ben, ça marche.
Pourquoi cette version plutôt que l'autre ?
Alors, il y a plusieurs raisons, Mathieu. La première, déjà, c'est sa diffusion sur Radio Paris, la radio de propagande allemande. Oui, celle-là même qui est raillée par les résistants sur les ondes de Radio Londres.
Radio Paris, Radio Paris est allemand.
En fait, pour séduire les auditeurs français, Radio Paris laisse une large place à la chanson, en prenant soin tout de même que les paroles des morceaux soient inoffensives. Mon amant de Saint-Jean, c'est l'histoire d'une jeune femme éconduite par un homme qui, pourtant, lui avait sorti le grand jeu.
Comment ne pas perdre la tête ?
Bon, a priori, rien de trop subversif, quoique, j'y reviendrai. Ah. Le morceau passe la censure sans problème. Deuxième raison du succès, la nostalgie. Comme la plupart des succès de l'époque, Mon amant de Saint-Jean nous plonge dans les jours heureux de la France d'avant-guerre. Tout le texte est écrit au passé. Et la dernière phrase, si elle évoque une histoire d'amour, peut prendre un tout autre sens dans la France occupée.
C'est du passé, n'en parlons plus.
Un constat un brin amer, un sentiment de résignation qui est partagé par beaucoup de Français pendant l'occupation. Et ce qui rajoute à la nostalgie, c'est son genre musical. Une valse musette, jouée comme vous l'entendez à l'accordéon, c'est la bande-son des bals musettes des faubourgs de Paris qui ont explosé dans les années 30.
C'est dans le quartier de la Bastille, à Paris, qu'est né le bal musette. Il ne reste de cette époque que le nom d'une célèbre rue qui abrita le temple du musette.
Rue de l'Ap et ailleurs, dans les guinguettes, dans les dancings, dans les cafés-concerts, on danse la valse, la java, le tango. C'est l'époque bénie du Front populaire, des congés payés. C'est l'avènement du temps libre et des premiers loisirs de masse. Émile Carrara, donc le compositeur, justement, il a grandi dans un café-bal tenu par son frère, s'appelle le Tourbillon, Paris 19e. Et sa chanson, en fait, elle ressuscite l'ambiance de ces fêtes populaires que le régime de Vichy a interdit par décret dès 1940, entendant mettre fin à l'esprit de jouissance qui aurait causé la défaite de la France.
Donc si je vous suis, écoutez Lucienne Delisle, c'est comme un acte de résistance.
On va dire un petit acte de résistance symbolique, intérieur à moindre frais, mais certains vont beaucoup plus loin, puisque partout en France, en ville comme à la campagne, s'organisent des bals clandestins.
On a même fait des bals aussi à Laval, dans l'écurie, au milieu des vaches.
Un appartement peut-être assez grand pour tenir peut-être, une, je sais pas, 7, 8 ou 10 couples de temps en temps, quand il y avait des estafettes allemandes qui passaient dans la rue, et il fallait se dépêcher de se planquer.
Les bals clandestins, en fait, c'est un peu les rêves parties de l'époque. On danse pour oublier la guerre, pour affirmer que malgré tout, la vie continue. À la libération en 1944, les Français veulent célébrer en dansant, mais le décret de Pétain reste en place. Et ce n'est qu'en avril 1945 que le gouvernement de transition, qui est complètement débordé par les bals clandestins, rétablit finalement la liberté de la danse. Donc c'est un peu tout ça que symbolise la chanson de Lucienne Delisle, et c'est la raison pour laquelle elle est passée à la postérité. En 1980, François Truffaut en fait la bande-son de son film Le Dernier Métro. Quand Patrick Bruel la réactualise en 2002, c'est l'un des plus grands succès de l'année. Et l'année dernière, c'est même un rappeur qui s'en est emparé. Il s'appelle Bénab, Saint-Jean devient Sevran. Le titre du morceau, c'est Beaujour. Et c'est pas un hasard quand on connaît l'histoire de la chanson. Mon amant de Saint-Jean ou de Sevran, à chacun et chacune de s'approprier ce goût si français de la liberté.
Merci beaucoup Camille Diao, et maintenant qu'on connaît l'histoire, eh ben on écoute évidemment le tube de 1942, Mon amant de Saint-Jean, Lucienne Delisle sur France Inter.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, vos musettes, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il a eu 2 mois pour m'écrire un lancement à sa chronique, seulement voilà, la ponctualité suisse visiblement se perd, l'ardeur au travail aussi. Bonjour Charles Nouveau.
Bonjour, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, n'est-ce pas Mathieu Noël? Bonjour Mathieu Christmas. Tant de choses ont changé durant mon absence et pas seulement la fréquence des blagues sur les boîtes de nuit genevoises de cette émission. Quel dommage. La dernière fois que j'étais là, il se disait que nous vivions encore en démocratie alors que désormais, selon Marine Le Pen, on est dans une réalité digne d'un régime autoritaire. Pauvre, on n'a plus le droit de détourner de l'argent public. Ce pays n'a donc plus aucun respect pour la jurisprudence. On en profite pour rappeler à Guillaume Meurice que si son érection n'a toujours pas diminué depuis la condamnation au début du mois, il est peut-être temps de consulter un spécialiste. Mais plutôt que de nous enfermer dans un débat sur l'intégrité des personnalités politiques actuelles, polémiquons sur l'intégrité des personnalités politiques d'avant. François Mitterrand, par exemple, puisque c'est le sujet, l'un des grands serviteurs de la France, d'après Jacques Chirac, mais aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de mal au pays, d'après mon papa de droite. Le seul président à avoir fait 2 septennats complets, une longévité qu'Emmanuel Macron trouve certainement enviable, alors que Donald Trump, lui, pense que ça manque un peu d'ambition. Un type qu'on associe à beaucoup des plus grandes réformes sociales du pays apparaît avec le maréchal Pétain sur une photo prise en 1942. Alors déjà, à une époque où les gens devaient avoir quoi, max 5 ou 6 photos d'eux-mêmes à compléter, c'est quand même dommage que l'une des 5 soit avec Pétain. Mais en plus, pour les non-férus d'histoire, 1942, de toutes les années où tu peux avoir été pris en photo avec Pétain, pas une des plus faciles à assumer. Hein, cela dit, la photo n'a été rendue publique qu'en 1994, alors qu'il avait déjà 78 ans et qu'il mourra 2 ans plus tard. Donc il n'a pas eu à assumer méga longtemps. Et si vous trouvez que c'est un peu trop funèbre comme réflexion, dites-vous que je viens de faire une phrase avec les mots 78 et 94 et qu'en tant qu'helvète, j'ai envie de me faire harakiri avec un couteau suisse. Le secret a quand même été maintenu 52 ans. Personne n'a poucave pendant un demi-siècle. Le temps que ça a duré m'impressionne presque davantage que le secret en lui-même. Et surtout dans un pays à peine plus connu pour sa gastronomie que pour ses délations. Et je prétends pas être au-dessus de tout ça, honnêtement. Ne me montrez jamais de photos de vous avec un chef de gouvernement autoritaire, parce que dans la foulée, je propose direct à Edwy Plenel qu'on aille tremper nos moustaches dans des cafés pour débriefer. Monsieur Duhamel, notre invité, estime que cette omerta autour du cliché maudit s'explique en partie par le fait qu'à l'époque, la raison d'État avait beaucoup plus de poids qu'aujourd'hui dans les décisions des gens. Pourtant, c'est cette même raison d'État qui a été évoquée cette semaine par le personnel de l'INA quand ils ont refusé de me montrer les archives du Skyblog de Quentin. Skyblog qui, j'en suis sûr, nous aiderait à comprendre qu'en matière d'opinion publique, la seule chose pire qu'une photo compromettante, c'est plusieurs photos compromettantes. L'opinion publique, justement, elle est divisée sur les anciennes allégeances de Mitterrand, un peu vichiste, un peu résistant, c'est pas clair. Surtout si, comme moi, t'as pas encore eu le temps de lire le livre de l'invité. Il a longtemps manqué des éléments et Mitterrand a fait preuve d'autant de transparence que les fenêtres d'une kangou familiale qui revient de vacances fin du mois d'août. Et venant de quelqu'un qui cherche à se faire élire, est-ce que c'est pas non pas excusable? incroyable, mais un peu compréhensible. Dans un contexte de séduction, on omet parfois certaines vérités, comme en témoignent les taux de propagation des papillomavirus. Et quand bien même il aurait un peu collaboré et que ça s'était su avant son élection, est-ce que ça aurait vraiment tant gêné les Français que ça? Je croyais pourtant que les gens préféraient voter pour quelqu'un qui leur ressemble. Et que c'était notamment pour ça qu'on avait eu autant de présidents qui trompaient leurs femmes. En tout cas, on arrive au bout de notre émission, monsieur Duhamel. Ironiquement, à la fin, on a une petite tradition, un selfie partagé entre l'invité et l'équipe de Zoom Zoom Zen. Il va donc y avoir une preuve en image que vous avez côtoyé Cyril Lacarrière. Et comme pour nous tous, un jour, ça va vous créer des problèmes.
D'énormes problèmes. Merci Charles Nouveau. J'ai envie que vous vous sentiez bien. Vous pouvez dire 78 et 94 si vous voulez, Alpaz.
Vous savez, nos auditeurs. Vous prendre en mot, attention.
Ah oui, c'est très important. Merci beaucoup Charles, ça fait du bien de vous retrouver. Merci à tous. Merci surtout Patrice Duhamel d'avoir revisité 1942 avec nous. Je rappelle votre dernier livre, La photo Pétain-Mitterrand, l'histoire secrète du document qui aurait pu bouleverser la 5ème République. Et on a compris en vous écoutant pourquoi. C'est disponible aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec
Merci
nous cet
vous.
Après-midi. Merci à tous les amis, cette fois pour de bon, je vous dis...
Salut
Il l'a remis.
Salut Manon, salut Quentin, comme dirait aussi Michel, je pars, je vous aime, mais je pars. Bon alors, juste en vacances d'abord, vous aussi d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est avec un florilège de nos meilleurs moments que vous aurez rendez-vous, et Dieu sait qu'il y en a eu.
Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie, seul au monde.
Après quoi, comme je serai occupé à pouponner, je céderai les rênes de cette émission à Manon, Cyril et Quentin. Je vois votre mou dubitatif, Patrice, oui, advienne que pourra.
Oh.
Merci en tout cas à toute l'équipe.
Évidemment,
je crois en vous, mais alors si vous saviez, mais dur comme fer. Merci à toute l'équipe en régie, Alexia Lacour, Florence Gimalac, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Lola Auvert et Gérald Darnaud à la réalisation. C'était Ghislain Fontana à la technique, Ludovic Asselot, que j'entends me chanter d'ailleurs. Vous allez me faire chialer les gars. Allez, à très vite.
Zoom Zoom Zen.